Nous recevons Monsieur Ismaël Nelil, en avant les Essarts, bonjour.
Bonjour RVE, bonjour les nouvelles.
Bonjour à toutes et à tous.
On va commencer cet entretien pour vous permettre d'exposer les orientations que vous désirez donner à ce second mandat. Mais auparavant, Philippe, on va faire plus ample connaissance.
Vous voulez parler des Essarts-le-Roi et expliquer à nos auditeurs quelle est la place des Essarts-le-Roi au sein de ce Sud-Yvelines. C'est un peu la porte d'entrée du Sud-Yvelines, donc c'est une commune assez importante de ce point de vue géographique. Et en même temps, dire qui vous êtes, quel maire vous avez été et pourquoi vous voulez poursuivre dans cette voie.
Je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, je suis Ismaël Nelil, j'ai 48 ans. Je suis maire des Essarts depuis presque 6 ans. La vision que j'ai des Essarts-le-Roi, vous avez raison. C'est vrai qu'on rentre vraiment dans le sud d'Yvelines par les Essarts-le-Roi, hein, parce que quand on quitte Coignières, on voit les champs et on voit bien qu'on a changé d'environnement. Donc les Essarts-le-Roi, on a cette lourde responsabilité de protéger le sud d'Yvelines contre l'urbanisation galopante qui part de Paris et qui descend sur le nord d'Yvelines. Et c'est bien évidemment ce qu'il faut conserver aux Essarts, parce que on est une ville, hein, on a un peu plus de 6800 habitants, donc on est une ville qui doit garder un esprit village. Et quand on rencontre les Essartois, et j'en fais partie aussi hein, dans les choix d'habiter aux Essarts, ils sont venus aux Essarts parce qu'effectivement on est une petite ville, qu'on est une ville à la campagne, le week-end, le soir, on peut aller promener les chiens en forêt, on peut voir les gens. On a cet esprit village puisqu'il y a des fêtes, les gens se parlent. On est une ville à la campagne, il faut conserver cette qualité de vie que nous avons. On y travaille depuis 6 ans et on renforcera dans les 6 prochaines années cet esprit village et le bien vivre aux Essarts.
Aux Essarts-le-Roi, il y a un sujet qui est apparu, c'est le plan local d'urbanisme et qui est porté par la liste qui se présente face à vous. D'ailleurs, c'est des membres du collectif qui s'est opposé au PLU qui défendent cette liste. Et ce plan local d'urbanisme inquiète parfois. Comment pouvez-vous rassurer les habitants sur les conséquences de ce PLU? D'après ce que j'ai compris, ça va en conduire à des constructions, notamment près du centre-ville, près de la gare, donc c'est des secteurs sensibles.
Alors, ce qui a pu inquiéter sur le plan local d'urbanisme et dont certains voudraient faire le seul point de campagne, c'est qu'on a entendu tout et n'importe quoi sur ce plan local d'urbanisme et surtout n'importe quoi d'ailleurs. Parce que moi, quand je rencontre les gens, ils me disent, voilà, on nous a dit que le plan local d'urbanisme, il permet la construction tous azimuts aux Essarts-le-Roi. Alors que c'est exactement l'inverse. Le plan local d'urbanisme tel que nous l'avons voté au mois d'octobre dernier, c'est un PLU de protection de la commune. Ça fait des années que les appétits immobiliers se sont concentrés sur les Essarts et dans le sud d'Yvelines. On a quand même une responsabilité de protection. Donc il faut que nous-mêmes, on protège notre ville pour que cette protection puisse ensuite se déplacer sur le sud d'Yvelines. Les personnes qui vous ont parlé de ce plan local d'urbanisme, elles oublient ou elles ne savent pas une chose. C'est que moi, en 2020, quand je suis arrivé aux Essarts, mon premier combat, ça a été de me battre contre les promoteurs immobiliers qui, en application du plan local d'urbanisme précédent, pouvaient construire n'importe où dans la ville et pouvaient construire une architecture béton, carré et des barres d'immeubles partout où ils pouvaient. On a résisté autant qu'on pouvait. Bon, il se trouve que dans mon métier, je connais bien la loi et que quand un promoteur arrivait avec son projet en disant, vous savez, voilà, nous on veut faire ça en centre-ville, ou on veut faire ça dans un hameau, ou on veut faire ça dans la ville, et c'est conforme au PLU. Et c'est vrai que c'était conforme au PLU, mais c'était moche, c'était dense, ça ne répondait pas au bon vivre aux Essarts. Et donc, on a passé des années à nous battre contre les promoteurs, et ça finissait souvent. Je disais toujours la même chose, je fais oui, ok, ça répond au plan local d'urbanisme, mais je vous donnerai pas le permis. Et si vous avez 5 à 7 ans à perdre en procédure, nous, on les tiendra. Donc c'est comme ça qu'on a protégé la ville pendant des années, et on s'est dit à ce moment-là, le plan local d'urbanisme, tel qu'il existait en 2020, c'est pas un PLU de protection de la commune, donc faut travailler à la révision de ce PLU pour justement empêcher tout cela. Et c'est ce qu'on a fait. C'est des années de travail, c'est des années de consultation. On avait fait des réunions publiques avec des personnes qui sont venues pour nous donner leur avis sur ce que doit être les Essarts-le-Roi dans les prochaines années. Il y a eu une enquête publique où les gens ont pu s'exprimer. D'ailleurs, on a fait des modifications suite à l'enquête publique. Le plan local d'urbanisme des Essarts-le-Roi, je le redis, c'est un plan local d'urbanisme de protection de la commune parce qu'il dit on ne peut construire que là où c'est déjà construit. C'est-à-dire que on garde le côté forêt et campagne de notre commune. On n'urbanise pas là où c'est pas urbanisé. Alors, sauf la zone du Gros Chêne, ça fait des années qu'on souhaite créer une zone sur cette partie-là. On ne construit pas ailleurs qu'en centre-ville, sauf le château d'eau, parce que c'était déjà prévu également avant mon arrivée. Et puis surtout, on n'étend pas la ville. Parce que ce qu'on ne dise pas non plus les personnes qui présentent le plan local d'urbanisme comme un mauvais plan, c'est que aux Essarts, on avait, nous, la possibilité d'étendre la ville sur 8 hectares. Et donc de manger des champs, de manger des forêts, etc. On avait cette autorisation par le SDRIF-E, par la loi, qui disait, vous pouvez étendre la ville à 8 hectares. Et le plan local d'urbanisme, aujourd'hui, il étend la ville de 0, parce que je n'ai pas souhaité étendre la ville dans ce plan local d'urbanisme. Mais par contre, il répond aussi aux contraintes que nous avons, parce que je l'ai dit à plusieurs personnes, et tout le monde le sait, les Essarts-le-Roi, c'est une ville carencée en termes de logements sociaux. Ça veut dire que non seulement on paye une pénalité qui a été doublée il y a 3 ans, Donc on paye près de 200 000 euros par an de pénalités à l'État. C'est 200 000 euros de notre budget qui part tous les ans, avec lequel on pourrait faire de la réfection de rue sans problème, mais on peut pas parce qu'on le paye à l'État. Et surtout, on nous a confisqué le droit de préemption. Le maire a un droit de préemption sur une vente, vous vendez votre maison. Si la commune a un projet, on peut devenir prioritaire et dire bah, vous vendrez pas à tel, vous nous vendrez à nous. Ça, on l'a perdu et c'est l'État qui l'a. Aujourd'hui, s'il y a un grand terrain qui se vend aux Essarts-le-Roi, bah, l'État peut dire moi je vais le préempter. Et vous imaginez bien que si l'État le préempte dans le cadre de la loi SRU, c'est pas pour en faire des maisons, c'est pour en faire des immeubles avec exclusivement des logements sociaux. Moi je suis pas anti-logements sociaux, par contre dans les logements sociaux, je souhaite qu'il y ait de la mixité. Je ne veux pas qu'on transforme des quartiers en ghettos, etc. Et je sais qu'il y a des personnes en face qui disent on n'a qu'à payer la pénalité. La conséquence, c'est que si on est encore carencé, non seulement on doublera encore notre pénalité, donc ce sera 400 000 euros et on n'en a absolument pas les moyens, mais surtout, l'étape d'après, c'est que l'État prend le droit de préemption, en tout cas il le garde, et il prend le permis de construire. C'est-à-dire que l'État pourra décider de délivrer des permis de construire à la place de la mairie. Et c'est ça qu'on veut éviter. Et puis le plan local d'urbanisme sert aussi les intérêts de nos besoins d'évolution. En France, en 2025, le nombre de décès a été supérieur au nombre de naissances. Aux Essarts-le-Roi, on fait pas exception à la règle. Et donc, si on fait rien, la population aux Essarts baisse. Si la population aux Essarts baisse, les commerces ne resteront pas, les médecins ne viendront pas, et ça fait 3 ans qu'on ferme des classes tous les ans. Et c'est justement ce qu'il faut éviter si on veut avoir un village dynamique. Il faut que l'on puisse faire venir des gens en centre-ville, des gens qui pourront consommer, des gens qui viendront remplir les classes et qui prendront les services publics. Et puis, voilà, il sert à ça, le plan local d'urbanisme. Et dans les bêtises que j'ai entendues, 10 000 habitants, sous peu, vous allez construire partout, pas du tout. Encore une fois, on ne construit, on ne densifie, et encore le mot est faible, que sur le centre-ville, et surtout le plan local d'urbanisme, et c'est écrit dedans, c'est 900 habitants sur les 15 prochaines années. Donc on n'est pas sur une densification massive, on est sur une urbanisation maîtrisée par la commune, et on ne donne pas nos droits aux autres.
Il y a beaucoup de chiffres qui circulent en termes de logements, plusieurs centaines, 500, concrètement combien de logements, et de quelle manière vous avez réussi à cadrer le profil des logements qui vont être construits.
Comment vous articulez tout ce que vous venez de nous expliquer avec cette volonté d'améliorer le cadre de vie.
Le plan local d'urbanisme, il nous donne plus de droits à la commune. Il impose des types de constructions, il empêche certaines constructions. Le précédent, le plan local d'urbanisme, il permettait de construire des barres d'immeubles. Et dans ce qu'on a appelé l'îlot septime, c'est bien ce qui était prévu à l'origine et c'est bien ce qu'on arrête. Aujourd'hui, quand on veut construire des logements, d'abord il faut qu'ils s'intègrent à l'architecture de la commune, sauf que nous, bah, effectivement, aux Essarts, c'est plutôt des toits, des maisons. Et donc, on peut imposer grâce au plan local d'urbanisme, grâce à ce qu'on appelle l'épanelage, c'est d'obliger à de la variation en hauteur pour justement pas qu'on ait des barres d'immeubles. C'est obliger certains types d'architecture pour que justement ils s'insèrent dans la ville et qu'on n'ait pas l'impression d'être à Saint-Quentin ou dans des grandes villes. Et surtout, il nous permet de négocier largement avec, d'une part, les promoteurs en disant, vous savez, nous, on est en capacité de vous dire non aujourd'hui. Donc, pour que vous puissiez vous dire oui, il faut que vous répondiez à nos exigences. Pour revenir sur l'îlot septime, parce que on parle du PLU, mais en fait, ce qui intéresse surtout les personnes qui vous ont parlé, c'est l'îlot septime, parce que c'est à côté de chez eux. Et sur l'îlot septime, en vérité, on a empêché ces constructions en barres d'immeubles et on a imposé plusieurs choses. On a imposé d'abord, parce que on est sur la rue de Rome, c'est le passage obligé, c'est le passage des écoliers qui vont au collège, qui vont à Coudouin et qui vont à la Romanie. Quand vous arrivez le matin dans la rue de Rome, d'abord, au croisement, les voitures ont du mal à se croiser et surtout, vous voyez les enfants qui sont sur un petit trottoir, qui peuvent chahuter, qui se poussent sur la rue. Moi, je considère, mais beaucoup des Essarts le considèrent également, que c'est une des rues les plus dangereuses des Essarts et il faut l'élargir. Donc, bien sûr, on a raisonné par opportunité. Et on a dit au promoteur, si vous voulez faire quoi que ce soit, bah vous allez nous rendre 5 mètres de rue. Donc sur votre domaine privé dont vous allez faire l'acquisition, vous allez vous décaler de 5 mètres et ça deviendra le domaine public pour qu'on puisse élargir la rue, faire une piste cyclable, élargir le trottoir. Bon, j'ai parlé de l'épanelage en disant, vous construirez pas des barres d'immeubles, vous ferez de l'épanelage et vous aurez des toits, ça devra ressembler à des maisons. Sur les espaces verts, le PLU précédent n'imposait que 20% d'espaces verts. Aujourd'hui, le PLU tel qu'on l'a voté, c'est 30% d'espaces verts sur ses actions de promotion. Et en vérité, le promoteur dans son projet fera 40% espace vert. Donc ça fera bien évidemment plus d'espace vert, ça permettra aux eaux pluviales d'être absorbées et de limiter les risques d'inondation. Et puis par exemple, sur la rue de la Ferme, qui est la rue perpendiculaire à la rue du 11 novembre et à la rue de Rome, il se trouve que c'est une petite rue, elle n'est pas très large. Et en face, ce ne sont que des maisons avec un étage plus un comble. Et on a dit au promoteur, vous ne ferez qu'un étage plus comble en face pour que justement vous soyez à hauteur de maison, parce que sinon vous aurez une impression d'écrasement des maisons et les voisins en face ne seront pas contents. Et sur la rue de Rome, de la même manière, on élargit de 5 mètres et on interdit la construction à moins de 3 3 mètres du domaine public. Donc en vérité, on a repoussé de 8 mètres les constructions, ce qui fait que les voisins en face de la rue de Rome n'auront pas de problème d'ensoleillement, n'auront pas de problème d'écrasement et n'auront pas de problème de voisinage. Donc c'est comme ça qu'on maîtrise notre urbanisme, c'est justement en ayant les moyens d'imposer à tout promoteur les principes de notre urbanisme. C'est pour ça que je dis aux Essarts, maintenant on a les moyens d'avoir un urbanisme maîtrisé.
Vous avez distribué apparemment des tracts pour rectifier les contre-vérités. Combien de logements sont prévus?
Alors en fait, si on est au maximum des projets qui sont possibles, c'est 515 logements bruts. En vérité, on est plutôt aux alentours de 400 logements sur les 15 prochaines années, parce que bien évidemment, comme on construit à l'endroit où c'est déjà construit, il y a des maisons qui existent ou des petits immeubles qui existent, ceux-ci disparaîtront au profit des autres. Donc c'est 515 logements bruts, mais plutôt 400 parce qu'on détruira des logements pour en construire d'autres. Donc 400 logements sur les 15 ou 20 prochaines années, on est sur ce qu'on appelle un urbanisme maîtrisé. Sur les infrastructures de la commune, elles sont largement pensées pour absorber tout cela. Je prends par exemple les eaux d'assainissement. On dépend de ce qu'on appelle le CIASI, qui est notre syndicat de traitement des eaux. On l'a bien évidemment interrogé et on est largement en dessous de ce que peut absorber le CIASI dans le cadre de la gestion des eaux pluviales. Donc nos infrastructures sont largement proportionnées pour accueillir ce qui va venir. On a également imposé dans l'îlot Septime un local de 200 mètres carrés qui sera exclusivement réservé à des professions médicales. Et pas de logement, on permettra l'accueil de professions médicales dans un local modernisé.
Vous précédez un peu la question justement, le problème de l'accès aux soins. Vous allez favoriser, aider en tout cas l'implantation de praticiens.
Bien sûr, non seulement on va l'aider, mais c'est une priorité. C'est pas une priorité qui naît aujourd'hui, hein, parce que dans le mandat actuel, on a quand même fait des choses sur le médical et le paramédical. Par exemple, au cours de mon mandat, on a eu l'installation d'un cabinet dentaire aux Essarts-le-Roi, sans mauvais jeu de mots, qu'on a été chercher avec les dents, parce que pour faire venir des professions médicales, on est tous en concurrence. Donc on a un cabinet médical qui s'est installé, on a un kiné qui vient de s'installer également aux Essarts. Donc bien évidemment qu'on fait de l'accès aux soins pour les Essartois une priorité. Une autre chose qu'on a faite, c'est qu'on a une maison médicale qui avait été construite par Jacques Boucher, qui était le maire d'avant, et j'en profite pour lui rendre hommage parce qu'il a été visionnaire sur cette maison médicale qui a permis l'installation de médecins. Cette maison médicale, il se trouve que dans le mandat précédent, il était imposé aux médecins de gérer eux-mêmes cette maison médicale, ce qui n'a pas de sens pour des médecins. Donc on a dit, attendez, la maison médicale nous appartient, c'est nous qui allons gérer. Puis alors il y avait une histoire, tout le monde est solidaire des loyers, donc ça donnait pas franchement envie de venir. Donc on a simplifié la gestion de la maison médicale, personne n'est solidaire du loyer des autres. Donc on a aussi simplifié la vie des médecins parce que c'est ça qu'il faut proposer. C'est des lieux, mais aussi une simplification. Il faut proposer une ville dynamique parce que les médecins, ils viennent s'installer là où il y a une patientèle. Ça, généralement, il n'y a pas de problème. Par contre, quand ils viennent s'installer dans des endroits où ils vivent. Et donc, ils ont besoin d'un cadre de vie dynamique. Et donc, on travaille d'ailleurs déjà avec la POSART, hein, qui est l'association des professions médicales sur Rambouillet et région, pour d'abord faire venir des médecins et voir de quoi ils ont besoin pour pouvoir leur donner ce dont ils ont besoin. Et on travaille bien évidemment avec les médecins locaux également. J'ai rencontré deux médecins dernièrement qui sont prêts à accueillir des médecins. Et puis, je suis en discussion avec des médecins qui terminent leurs études et qui verraient peut-être d'un bon œil les Essarts-le-Roi.
Améliorer l'attractivité des Essarts, si c'est l'attractivité du centre-ville. Le mandat a été marqué par la réinstallation de la librairie. Qu'est-ce qu'il reste à faire aussi pour préserver l'attractivité commerciale du centre-ville? Il y a aussi le bar tabac qui est aussi important.
Alors effectivement, moi en 2020, quand je suis arrivé, on avait un centre-ville, il était moribond. Il n'était pas attractif, il n'y avait pas d'endroit où aller. Ça a commencé par le cabinet dentaire, parce que la profession médicale attire les gens en centre-ville. Il y a effectivement, ça c'était dans notre projet de 2020, la réinstallation d'une librairie fonctionnelle qui soit attractive. Ça aussi, ça a été un grand moment, parce que d'abord, il y avait une conviction qui était la nôtre, c'est que tout libraire pouvait pas s'installer aux Essarts. Aux Essarts, une petite ville, c'est un risque pour un libraire. C'est une profession qui est pas la mieux traitée au monde. Et il se trouve qu'on a la chance d'avoir aux Essarts-le-Roi le patron du pavé dans la mare d'Elancourt, qui était intéressé par le fait de reprendre la librairie en plus du pavé dans la mare d'Elancourt. Puis ça avait du sens, parce que du coup, en termes d'approvisionnement de livres, voilà, c'est logique. Il a accepté de jouer le jeu avec nous, et la condition, mais ça, il l'a accepté immédiatement, c'est que la librairie soit ouverte 5 jours sur 7. Et que ce soit pas juste un appoint avec une personne une journée par semaine, etc. Donc il a embauché un libraire, et ça marche super bien, vous l'avez dit, elle était très attendue, et les Essartois n'ont pas manqué le rendez-vous. Alors je dis les Essartois, mais les Perrotins, les Lévisiens, les Farguciens, et tout ce qu'il y a aux alentours. Et la librairie a été un point central de redynamisation du centre-ville. Je veux vous dire qu'on a quand même des commerces qui sont bons aux Essarts-le-Roi, je pense à Lucille, qui a la lunetterie. On a le Bocal, qui a ouvert aussi, il y a quelques mois, qui est un magasin où on peut quasiment tout trouver, hein. Il marche super bien, parce que le centre-ville, encore une fois, est nouveau attractif. Et nous avons des nouveaux propriétaires au bar tabac qui sont arrivés, pareil, il y a 2 ou 3 mois, et qui relancent la restauration, qui était extrêmement attendue également. Et donc, ils sont aussi un point d'attractivité. Et j'oublie pas, bien évidemment, la pizzeria, ni le Jakobs, qui sont aussi dans le coin. Et surtout, pareil, on a une pharmacie qui est venue se réinstaller dans un local qui était vide depuis des années en centre-ville. Donc on a aujourd'hui un centre-ville qui a gagné en dynamisme, en attractivité, et on voit effectivement plus de d'urgence entre ville aujourd'hui aux Essarts-le-Roi.
Les habitants aussi sont sensibles à l'entretien, à la beauté du village. Que reste-t-il à faire?
Il reste énormément à refaire. Et je peux pas parler de l'entretien sans parler des finances. Parce que quand on est arrivé en 2001, on savait que la ville allait pas bien financièrement, mais on se doutait pas que c'était à ce point-là, parce que en 2018, 2019, 2020, on avait une capacité d'autofinancement net négative de plus de 300 000 euros. À la fin, on perdait 300 000 euros sur notre budget. Quand on a une capacité d'autofinancement net négative, ça veut tout simplement dire que si on veut faire quoi que ce soit, soit faut augmenter les impôts, soit faut emprunter. On avait un taux d'endettement qui était quand même assez fort. Les ratios, c'est l'extinction de la dette en deçà de 12 ans, on est pas mal. Au-delà de 12 ans, on n'est pas bon. On était largement au-dessus de 12 ans. Donc il a fallu redresser les finances. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand on a voulu réhabiliter la librairie, on était sur une centaine de milliers d'euros de travaux, avec un budget de 9 millions quand même, hein. Eh bien, on a eu interdiction de le faire par la Direction générale des finances publiques parce que nos finances ne le permettaient pas. 100 000 euros de travaux. On a mis un peu plus de 2 ans à remonter nos finances et avoir une capacité d'autofinancement positive. On était d'ailleurs dans ce qu'on appelle un réseau de surveillance, c'est-à-dire que tous les ans, on devait rendre compte de notre capacité à redresser nos finances. On en est sorti, ce qui montre bien que d'ailleurs, on a bien redressé les finances. Et pourquoi je fais le parallèle entre les finances et l'entretien de la ville? Puisque, comme je vous l'ai dit, si on veut faire quoi que ce soit, soit fallait augmenter les impôts, soit fallait emprunter, il a fallu d'abord qu'on redresse nos finances pour pouvoir lancer de grands investissements. Et refaire les rues, c'est quasiment pas subventionné, mais il a fallu remettre les finances d'équerre. Et depuis qu'on les a remises, on a quand même refait 11 rues, totalement ou partiellement, dans la commune, ce qui n'avait jamais été fait auparavant d'ailleurs. Mais il reste encore énormément de rues à refaire. On sait que les rues sont pas en bon état, qu'il faut encore accentuer le mouvement. Pour le prochain mandat, on sait qu'on refera au moins 2 rues par an. Ça, c'est pour les rues. Et puis, bien évidemment, le patrimoine communal. Hein. On fait le château de la Romanie, qui va devenir le pôle culturel de notre commune et qui est extrêmement attendu. Et puis, il y a le patrimoine global de la commune. C'est notamment les chaudières et les chauffages dans les écoles, qui ont plus de 50 ans, mais qui n'ont jamais été refaites. On a refait celle du groupe Coudouin. On refera petit à petit le chauffage dans les écoles. Pareil dans l'église, le chauffage est en train de tomber en panne. On a un partenariat avec le département qui nous permettra de changer la chaudière et de refaire des travaux dans l'église. On va vraiment accentuer l'embellissement de la ville, l'entretien de la ville dans les prochaines années. Ce serait une priorité.
Sur le commerce, j'avais oublié de parler du marché qui occupe une place très importante au Essarts-le-Roi. C'est l'un des seuls marchés couverts du secteur. Vous aviez travaillé dessus?
Ah oui, je peux vous en parler du marché parce qu'effectivement, le marché avait plusieurs problèmes. On sait qu'il y avait quelques projets aux alentours pour en refaire un et donc il fallait pas qu'on se fasse prendre de vitesse par une concurrence. Et donc il a fallu reprendre le marché en main. On a travaillé avec les commerçants du marché d'ailleurs. Et il y a plusieurs choses. Première chose, il se trouve qu'il y avait une délégation de services publics sur le marché. Quand je suis arrivé, on ne pouvait, nous, mairie, rien faire sur le marché. C'est-à-dire que si on voulait utiliser, il fallait l'autorisation de notre délégataire qui avait un contrat béton qui nous disait bah non, là vous pouvez pas, là vous pouvez pas. Donc on pouvait absolument rien faire. Et que si on refaisait des travaux, ça refaisait courir la délégation de services publics pendant des années. Et on voulait pas perdre la main. Donc on a récupéré la main sur le marché. Dès le début du mandat, on a dit au délégataire de services publics, ça s'arrête là. La possibilité de sortie, on l'a fait. Donc aujourd'hui, le marché est totalement à la main de la commune. On a refait les sols, on a refait les toilettes qui étaient en panne depuis des années. Et on a refait surtout une très belle devanture avec votre marché éclairé, ce qui lui donne une visibilité. Aujourd'hui, je pense que les commerçants sont assez contents de ce que l'on a et de la qualité qu'on peut avoir. Il y a juste un sujet, c'est le parking sur le marché. Parce que effectivement, le marché, il est très utilisé. Le parking est très, très utilisé également. Il y a des personnes qui n'arrive pas à trouver de place. Dans la prochaine étape, ce sera augmenter le nombre de places sur le parking pour qu'il y ait plus de gens qui puissent venir. Et le marché, il est bien évidemment central, mais il est surtout à côté d'un autre magasin qui est central pour nous également, c'est le U-Express, qui est un vrai partenaire de la commune, et je veux les en remercier, et qui travaille bien en synergie avec le marché. Donc quand on part du marché aujourd'hui, on est sur le marché et qu'on va jusqu'à la place du centre-ville où il y a le bar tabac, bah, c'est là que commence la dynamique commerciale de la ville, et c'est là-bas qu'elle finit. Je pense qu'aujourd'hui, on a bien remonté cette dynamique, puisque les commerçants en sont contents, et qu'on a parfois de nouveaux commerçants qui arrivent sur le marché et que, vous voyez, il attire énormément. Quand on tracte sur le marché en ce moment, quand on demande aux gens, vous habitez aux Essarts-le-Roi, il y en a énormément qui nous disent non, moi je suis de Lévis-Saint-Nom, je suis de Fargis, je suis du Perret. Donc il est très attractif également pour les communes aux alentours.
On va revenir sur un point dans votre programme, c'est la démocratie locale.
La démocratie locale, c'est important. On a une adjointe aujourd'hui qui est dédiée à la démocratie locale, Nathalie Stéphane, qui a beaucoup œuvré d'ailleurs pour remettre le lien entre nos décisions et les Essartois. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Alors dans sa commission, du PLU, c'est la première commission qu'elle a faite. Elle a invité des personnes pour échanger avec des ateliers participatifs. Elle a mis aussi en place ce qu'on appelle la balade des élus. C'est un samedi, les élus, le maire viennent dans un quartier et ça permet aux gens de venir, de nous expliquer leurs problématiques, d'échanger avec nous. Il y a des demandes, il y a des comptes rendus. Après, on suit les demandes qui ont été faites. Et la démocratie locale, c'est rapprocher le centre des décisions avec la population et il va falloir l'accentuer. Et Nathalie a encore beaucoup de projets en la matière.
Dans cette campagne, le terme esprit village revient souvent. souvent. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet esprit village et comment ça se met en place concrètement?
Il y a deux notions d'esprit village qui s'opposent dans cette campagne. Il y a celle qui n'est pas la nôtre, qui est de dire l'esprit village, c'est ce qui est à côté de ma maison. Et il y a la nôtre qui est l'esprit village, c'est le lien entre les gens. On peut habiter un village de moins de 1000 habitants s'il ne s'y passe rien. Il n'y a pas d'esprit village. Et en 2020, alors il y a le Covid avant, mais de toute façon, dans la mandature précédente, Essert-le-Roi a eu tendance à devenir une ville dortoir. Les événements avaient disparu, il n'y avait plus le feu de la Saint-Jean, il n'y avait plus le carnaval. L'esprit village, c'est remettre le lien entre les gens, donc c'est dire il y a de la vie dans la ville, et puis que les gens y viennent. C'est les gens qui se disent bonjour tous les jours, c'est les gens qui se retrouvent au café, c'est des gens qui se retrouvent dans les associations, et on a la chance d'avoir des associations hyper performantes aux Essert-le-Roi, et donc il faut capitaliser tout ça. Donc l'esprit village, c'est de dire, voilà, on remet les événements, on remet le lien entre les gens, on remet de l'intergénérationnel, surtout, ça va être le gros enjeu des prochaines années. C'est pas l'architecture, c'est pas la taille de la ville. Nous, il faut qu'on profite de notre taille, de notre dynamisme, pour justement remettre du lien entre les gens. Le meilleur exemple qu'on a eu, outre les événements qu'on a remis en place, nous avons créé nous-mêmes nos Jeux Olympiques aux Essert-le-Roi par quartier. Et les quartiers se sont réunis pour pouvoir affronter les autres quartiers dans des épreuves officiellement olympiques, soit qui ne le sont pas. Et pendant cet événement qui a duré une année, il y a des gens qui pourtant habitaient à côté depuis des années, qui ne se connaissaient pas, qui aujourd'hui sont de très bons amis, vont prendre le café les uns chez les autres. Et c'est ça l'esprit village. C'est remettre le lien entre les voisins, le lien entre les habitants, et qu'il y ait toujours une bienveillance et une inclusion dans la ville.
On vous laisse le dernier mot.
Vous me posiez la question tout à l'heure de pourquoi je représente ma candidature auprès des Essartois. C'est parce que je considère qu'on a fait beaucoup de choses dans la ville. On a remis du lien entre les gens, on a relancé la rénovation du patrimoine, on a tenu toutes les promesses que nous avions faites en 2020, et en dernière en date, c'est la mise en place de caméras de vidéoprotection dans la ville, qui manquaient cruellement à notre commune. On a lancé une dynamique aujourd'hui. Il faut transformer l'essai, comme on dit. Et dans les 6 prochaines années, nous avons préparé une base suffisamment solide aux Essert-le-Roi pour encore accroître le bien-vivre aux Essert-le-Roi, parce que c'est ça le maître mot dans notre commune, c'est bien-vivre aux Essert-le-Roi. Et aujourd'hui, moi j'ai une équipe qui n'est que dans l'intérêt général. Moi, j'ai personne qui se présente pour son voisin, pour sa rue, pour sa maison. J'ai que des gens qui se présentent dans le cadre de projets qui veulent faire avancer la ville dans le cadre de l'intérêt général, et je les en remercie. J'ai une superbe équipe qui s'est renouvelée partiellement, et il y a une stabilité, parce que je garde une grosse partie de l'équipe précédente, et des personnes nous ont rejointes avec leur expertise. On a mis en place une base solide. Maintenant, il est temps de mettre le premier étage de la fusée pour que nous puissions continuer à dire que les Essarts est une ville qui avance. Et c'est d'ailleurs tout le nom de notre liste, c'est En avant les Essarts, parce qu'il faut que notre ville avance, elle avance. Et aujourd'hui, c'est une ville très attractive. Donc, je pense qu'on est en passe de réussir le pari.
Monsieur Ismaël Nelil, je rappelle que vous êtes le maire sortant des Essarts-le-Roi et que vous conduisez la liste En avant les Essarts. Philippe, tu représentes toutes les nouvelles, l'hebdomadaire.
Oui, mais merci à toutes et à tous.
Merci, monsieur Nelil.
Merci à vous, merci pour cette invitation et pour cette interview originale de deux acteurs locaux importants. Merci.